Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos chroniqueurs, Benaouda Abdenaïm, notre globetrotter, Claire Sergent, notre bibliothécaire cette semaine. Et puis nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux. On démarre tout de suite avec nos auteurs, sachant que vous n'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook. Le 15 août 1971, il y a 50 ans, le président des États-Unis, Richard Nixon, annonçait la fin du système monétaire imaginé à Bretton Woods qui avait fait du dollar la principale monnaie de réserve du monde. Alors comment cette décision a-t-elle impacté l'économie mondiale? À quel déséquilibre a-t-elle conduit? Quel avenir pour le système monétaire international dans un univers de concurrence entre les monnaies officielles, mais aussi entre les monnaies officielles et privées? Virtuel et réel, eh bien, c'est à toutes ces questions que vont répondre nos deux invités. Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes professeure d'économie à Neoma Business School et vous êtes une des contributrices à l'ouvrage collectif publié par l'Institut d'économie Dollar, Euro, Yen, Bitcoin, Diem, Crypto, Tectonique des monnaies. Jacques Mistral, bonjour.
Bonjour.
Jacques Mistral, vous êtes chercheur à la Brookings Institution à Washington et à l'IFRI et vous publiez Guerre et paix entre les monnaies aux éditions Folio, c'est chez Gallimard. Je n'ose pas dire, Jacques, que c'est une réédition de votre ouvrage de 2014, tellement c'est un ouvrage différent. Vous avez énormément revu les chapitres. Vous avez même ajouté tout un tas de nouveaux textes sur notamment ces crypto-monnaies. Mais bon, comme ça s'appelle pareil, je dis que c'est une réédition. Je commence avec vous, Jacques. Que change cette décision des États-Unis le 15 août 1971 de ne plus permettre la convertibilité du dollar en or?
Eh bien, en matière de monnaie internationale, depuis le milieu du 19e siècle, on vivait avec l'idée que la référence centrale, c'était l'or.
Ouais.
Et puis, et l'or, et que son instrument pratique, l'instrument dominant, c'était la livre sterling.
Ouais.
Bon, il y a eu, dans l'entre-deux-guerres, tout le grand micmac entre les deux monnaies et la chute de la livre sterling, après quoi le dollar s'est imposé comme étant le pivot. Et on disait que le dollar, à l'époque, était aussi bon que l'or. C'était un étalon de change-or. Vous vous souvenez peut-être, et les téléspectateurs plus jeunes découvriront peut-être que pendant les années 60, le général de Gaulle voulait justement éprouver cette idée que le dollar était aussi bon que l'or et changer des dollars papier en or. Tout cela a conduit à 1971 et à la fin de ce système de Bretton Woods, mouvement de capitaux réduit et taux de change fixe mais ajustable. C'est un système qui a eu des vertus puisqu'il a permis la reconstruction de l'après-guerre.
Donc le système de Bretton Woods, pour bien comprendre, en fait, toutes les monnaies sont convertibles en dollars. Et le dollar est la seule monnaie convertible en or.
Supposedly. Hein, on suppose que c'est possible, mais le jour où de Gaulle s'y est essayé, il a découvert que... Enfin, il n'a pas découvert. Il a
dû confirmer
que c'était, voilà, ouais, que les choses étaient plus compliquées que cela. Alors, ça 71 marque la fin de cette première étape, et on entre dans une seconde étape du système monétaire international, qui est caractérisée par des changes flottants, hein, on disait à l'époque. Des changes déterminés sur le marché des changes. Ça fait une très grande différence parce que désormais, donc, ce sont des considérations d'acteurs privés, de financiers, qui décident de l'évolution du cours des changes. Et on a observé dans les années qui ont suivi 70, les décennies 80 et le début des années 90, de grandes fluctuations des monnaies, en particulier au sein du système monétaire européen et vis-à-vis du dollar. Et il y a donc cette contradiction pendant le régime d'échange flottant entre des mouvements de capitaux de plus en plus libre, provoquant des fluctuations de grande ampleur des taux de change, et donc une décorrélation entre le mouvement du commerce, des échanges importation et exportation, et les investissements, les mouvements de capitaux. C'est ce qui était l'origine de graves déséquilibres. Mais on a tort d'en conclure que c'était un non-système, parce que s'il y a eu effectivement des crises et des fluctuations, au total, c'est quand même ce système d'échanges flottants, il a permis l'extraordinaire croissance de la décennie 90, ouais, et surtout l'insertion dans le système monétaire international, dans l'économie internationale, des pays émergents et en particulier de la Chine. Et donc le vrai basculement du système monétaire international, c'est le jour où ce système qui avait trouvé à peu près sa stabilité se trouve confronté avec un acteur totalement nouveau, qui est la monnaie chinoise.
Alors aujourd'hui, on est quand même à un point de bascule, parce que vous le dites très bien, vous le faites le lien en permanence dans votre livre entre finalement la géopolitique et la monnaie. Et là, l'émergence de la Chine, ça va nous emmener vers quel monde finalement, vers quel multilatéralisme?
Alors on a longtemps cru, c'est du moins ce qui était dans l'esprit des décideurs au moment où les États-Unis ont organisé l'entrée de la Chine dans l'OMC, et c'est ça qui a permis à la Chine de connaître la croissance exceptionnelle qu'elle a connue. On a longtemps cru qu'il y aurait une évolution de la Chine vers un peu plus de libéralisme économique, et pendant 20 ans ça s'est quand même produit, et en même temps vers un peu plus de libéralisme politique. Ouais. Et donc ceci...
Ça c'est Francis Fukuyama, voilà. La fin de l'histoire.
Alors ça c'est la version tout à fait idéologique, n'est-ce pas? Ouais. C'est la version extrême. Moi j'en donne une interprétation plus pragmatique, plus proche des faits, un mélange d'intérêts des deux côtés, la Chine se modernisant, ayant une croissance formidable, accumulant les succès, et les États-Unis ayant, de leur côté, beaucoup d'avantages à cette relation.
Le deal, Jacques, c'était l'Amérique achète les produits chinois avec l'argent que les Chinois prêtent aux ménages américains.
Voilà. C'était un peu ça. Alors, il y a une formule d'un collègue américain que j'aimais bien à ce propos, qui disait « Commerce international, c'est simple. » Les Chinois fabriquent les produits, nous fabriquons le papier pour les payer. Voilà. Alors, ça, cette époque-là, malheureusement, et c'est en cela que vous avez raison de faire référence à la géopolitique, cette étape-là, la troisième depuis la guerre, d'une certaine manière, cette étape-là, elle-même est terminée avec l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, qui a tout à fait abandonné l'idée de ses prédécesseurs que la Chine devait rester modeste sur le plan international, devait veiller à être bien avec ses voisins de la zone Asie-Pacifique. Xi Jinping a développé une posture politique très différente. Et le paradoxe de la situation dans laquelle nous vivons, c'est un paradoxe qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, c'est qu'il y a potentiellement deux rivaux prêts à rentrer dans une sorte de guerre froide, hein, on le voit de plus en plus, deux énormes superpuissances qui sont non seulement prêts à se faire une guerre froide, mais en même temps étroitement liés par des intérêts économiques que résumait le double flux du commerce et du papier.
Alors, sur le plan monétaire, ça donne quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dans un monde, grosso modo, tripolaire, avec le dollar d'un côté, le yuan de l'autre, l'euro de l'autre côté?
Vous avez raison d'introduire l'euro, parce que c'est effectivement un monde tripolaire pour l'instant, et l'euro joue une carte distincte, puisqu'il n'est pas l'euro et l'Union européenne n'est pas impliqué dans cette rivalité de grande puissance, dans cette rivalité de type territorial, militaire, géopolitique, qui est en train de se nouer entre les États-Unis et l'Europe. Ce vers quoi on va, on n'en sait rien. On fait souvent la prédiction que cette relation va se transformer en guerre des monnaies. Moi, personnellement, j'ai intitulé le livre « Guerre et paix » parce que les intérêts en jeu entre les deux sont tellement grands que je ne vois aucun des deux prêt à déclencher la bagarre et à mettre par terre le fragile édifice économique qui s'est constitué jusqu'à présent.
Alors, surtout Jacques Mistral, qui a, sur ses rapports de force géopolitiques, deux chocs absolument nouveaux, plein d'incertitudes, qui sont, un, la révolution technologique qui introduit les crypto-monnaies, et deux, le fait que nous menons aujourd'hui des politiques monétaires et budgétaires qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on peut lire dans les manuels d'économie, et que donc, entre les incertitudes géopolitiques, les incertitudes technologiques, et finalement, le manque total de repères que nous avons sur l'effet des politiques économiques comme elle est aujourd'hui, là, pour le coup, je ne peux pas vous en vouloir de ne pas faire de prédictions avec certitude.
Alors, avant de sortir ma carte joker, je vais quand même dire deux choses, parce que tout ceci renvoie finalement à un facteur que vous n'avez pas mentionné dans votre liste, pourtant déjà bien impressionnante de fragilité du système international actuel, mais ce sont les fragilités internes. C'est-à-dire que la Chine est souvent présentée comme étant, depuis 30 ans, sur une trajectoire ascendante, dans laquelle, après avoir enregistré plein de succès économiques, le président, maintenant, utilise ces succès économiques sur le terrain géopolitique. La réalité, c'est que la raison fondamentale pour laquelle Xi Jinping a changé le cours de la politique chinoise telle qu'il existait à son arrivée, c'est que le système chinois est miné de l'intérieur par les inégalités, par la corruption et par d'innombrables dysfonctionnements liés au mélange très bizarre d'une économie centralisée et d'une économie de marché. Donc c'est une société dont il faut jamais sous-estimer qu'elle est extraordinairement capable, mais en même temps bourré de fragilité et toujours.
Oui, pour revenir sur l'incertitude liée aux politiques économiques, la seule chose qu'on sait finalement, c'est que la limite à cette création monétaire, à cet endettement, c'est le jour où on perdra la confiance dans les monnaies.
Moi, je pense que la limite, maintenant, les monnaies, elles sont beaucoup plus stables que celles que j'ai connues dans une grande partie de ma vie professionnelle, vous voyez, parce que les autorités chinoises veillent à la stabilité du lien, du triangle. Tant qu'ils en ont la possibilité, ce qui est le cas à l'heure actuelle, sont les Chinois qui ont sauvé l'euro il y a quelques années. Ils ont tenu à maintenir la parité d'échange dans des limites
donc
raisonnables.
Donc vous dites, ce monde euro, yuan, dollar convient très bien aux Chinois?
Pour l'instant, oui.
Bon.
Et la fragilité principale est aux États-Unis, dans laquelle les Américains, donc, comme ils l'ont montré en Afghanistan, comme ils l'ont montré à propos de l'Australie, ils n'ont aucune raison de renoncer au fait de privilégier leurs intérêts à tout moment. Et si le poids de la dette devient un fardeau, au moment où les taux d'intérêt risquent de remonter, car c'est ça la véritable
menace,
on va peut-être en parler dans un instant, mais la véritable menace macro, c'est le mur qui risque de se dresser bientôt devant le refinancement perpétuel de ces montants gigantesques de dettes.
Sauf que nous allons maintenant pénétrer dans un nouveau monde, celui des crypto-monnaies. Je reviendrai vers vous, Jacques, mais Nathalie Janson, ce panorama, effectivement, a été très bien décrit par Jacques Mistral, sauf qu'il y a maintenant ces crypto-monnaies. Alors, certains disent on marche sur la tête, ça n'a aucun sens. Et vous, vous avancez, avec vos camarades, une explication qui, moi, j'avoue, m'a convaincu, c'est cette idée que, finalement, qu'est-ce qui a fait le succès d'Internet, des emails, des smartphones? C'est leur commodité liée à l'informatisation. Eh bien, forcément, parce qu'elles sont pratiques et commodes, les crypto-monnaies vont prendre une place fondamentale dans l'économie de demain.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, dans le livre, l'idée, c'est de faire comprendre que la monnaie, c'est effectivement un des endroits où l'informatisation a aussi des conséquences. Et elle en avait déjà avant, hein, mais elles étaient moins visibles et moins radicales surtout, puisque de toute façon, on utilise tous des moyens assez dématérialisés pour payer. Donc, ça fait déjà longtemps que les entreprises privées se sont emparées des moyens de paiement. Simplement, là, on rajoute une couche, comme on aime dire, d'innovation qui est disruptive, puisque on a ici une monnaie. Alors, effectivement, les autorités ne veulent pas l'appeler monnaie, on appelle ça un actif numérique. Mais ce qu'elle permet de faire, c'est important, c'est de faire des transactions de pair à pair, de façon décentralisée, sécurisée, rapidement. Et le sécuriser est extrêmement important.
Donc,
sans les banques, donc sans tiers de confiance, voilà. Qui est extrêmement, c'est un point effectivement crucial. Et c'est en cela qu'elle est disruptive, puisqu'en fait, ça veut dire qu'en fait, si je fais une transaction avec vous, eh bien, je peux la faire. Je n'ai absolument pas besoin du système bancaire pour qu'elle soit accomplie.
Grâce à la technologie blockchain. Mais ce que j'ai trouvé très sympa dans votre livre, c'est qu'en fait, on en reste à l'essence de la transformation et vous ne nous perdez pas dans toutes les explications technologiques sur la blockchain. Et alors, Décrivez-nous le processus par lequel cette monnaie va conquérir, ces crypto-monnaies vont conquérir tous les attributs de la monnaie.
Alors là, on est au début de l'histoire, donc c'est pour ça que beaucoup l'ont jugé dès le départ comme n'ayant pas les trois attributs, hein, ce qui est, on dit toujours que ça doit être un moyen de paiement, une réserve de valeur et une unité de compte. En réalité, quand on regarde l'histoire monétaire, on n'est pas arrivé tout de suite aux trois en même temps. Mais néanmoins, on sait qu'une monnaie, il faut effectivement qu'elle soit acceptée par le plus grand nombre pour pouvoir avoir cette fameuse commodité, puisque sinon, ce n'est pas une monnaie si elle n'est pas utilisée par un grand nombre. Elle doit être réserve de valeur dans une certaine mesure, parce que sinon, si vous ne pouvez pas prédire dans le futur de sa valeur, ça va être compliqué de l'utiliser dans le temps, donc vous n'aurez pas forcément envie de l'utiliser.
Oh, mais ça viendra, vous dites, avec le fait qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement, donc, la plus connue, c'est évidemment le Bitcoin. C'est celle qui fait le plus parler d'elle. C'était la première à entrer sur ce marché. C'est la première aussi à avoir permis ces transactions hautement sécurisées pair à pair, de façon décentralisée et sans tiers de confiance, où en fait on pouvait s'assurer qu'une transaction, quand j'effectue une transaction, elle est unique et elle est inviolable.
Oui, mais les sceptiques vous diront quand même, derrière les monnaies traditionnelles, il y a un État à qui forcément on fait confiance. Là, on se dit à qui on fait confiance.
Alors, il faut savoir que le Bitcoin, il est né un peu au contre-courant et une réponse à la crise de 2008. Hein. C'était l'intention de ce groupe qu'on appelle Satoshi Nakamoto. On ne sait pas bien qui sont ces développeurs derrière, mais en tout cas, une chose est certaine, ils voulaient être en rupture avec le système existant parce qu'ils estimaient qu'il était trop centralisé, trop pyramidal, et que c'était la crise de 2008 était en fait un signe qu'en fait il était arrivé, le côté pyramidal était arrivé à son bout, on pouvait pas aller au-delà. Donc c'est pour ça qu'il développe cette monnaie décentralisée, et évidemment il n'y a pas l'État, puisque c'est le principe.
Oui, mais vous,
même
spécialiste des monnaies privées, vous soulignez avec une certaine malice que la garantie de l'État souverain n'a pas toujours été non plus une garantie, quoi.
Complètement. Les monnaies se sont développées sans les États. Les États n'ont pas toujours été à l'origine de la monnaie, puisqu'en fait la monnaie vient simplement résoudre des problèmes économiques très clairs.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une typologie des crypto-monnaies?
Alors, la typologie aujourd'hui, en tout cas, la principale, c'est le Bitcoin, et vous avez plusieurs services, on va dire, qui vont caractériser ces crypto-monnaies. Alors, ce qui caractérise le Bitcoin, c'est effectivement la qualité de sécurité de son architecture, qui est assurée par ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est-à-dire qu'en fait ceux qui vont valider les transactions.
Mais on dit le Bitcoin, ça utilise trop d'énergie, c'est pas assez efficace en termes de capacité de transaction.
Tout à fait.
Donc, est-ce que c'est has-been, le Bitcoin, finalement?
Non, le Bitcoin n'est pas encore has-been, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez des nouveautés, en tout cas, vous avez des innovations pour essayer de pallier à ces défauts, notamment le nombre de transactions effectuées par seconde, qui est effectivement faible dans le cas du Bitcoin, il est autour de 7. Et aujourd'hui, en fait, on développe en fait ce qu'on appelle le Lightning Network, qui permet en fait de faire une infinité de transactions dans un temps très réduit, avec un coût aussi, lui, très faible.
Alors, je vous le dis franchement, Nathalie Janson, je ne comprends pas l'intérêt pour les États de se lancer dans des crypto-monnaies publiques. Je n'arrive pas à voir la différence, si vous voulez, dès l'instant où il y a un État derrière, entre de la monnaie électronique d'État et une crypto-monnaie d'État.
Alors, en effet, c'est ce qui a mené les banques centrales, en tout cas des pays les plus avec des monnaies les plus stables comme les nôtres, à plancher sur la question. Ça vraiment, c'est venu en fait du projet de Facebook avec son fameux Libra qu'on attend toujours, qui s'appelle aujourd'hui Diem. Mais c'est lui qui a vraiment poussé dans ses retranchements en fait les autorités, puisqu'en fait elles contemplaient de très loin ces crypto-monnaies, et tout d'un coup elles se sont dit: mince, si en fait Facebook réussit, il a plus de 2 milliards et demi d'utilisateurs, il peut très bien prendre le marché.
Donc
si
une
ça
monnaie
marche,
qui concurrencera nos monnaies.
Exactement. Et donc ils se sont dit, c'est une attaque à la souveraineté monétaire, il faut qu'on réagisse. Et en fait, on peut même aller... En fait, ce sont les Chinois qui ont réagi surtout. Je pense que les Européens et les Américains auraient peut-être, enfin, les Américains certainement parce que c'était un projet Facebook, mais néanmoins je pense que c'est des Chinois qui ont été piqués dans le vif, hein, en se disant il faut qu'on y aille parce qu'on va pas laisser cette initiative.
Mais ça change quoi le crypto yuan par rapport au yuan normal?
Alors le crypto yuan, il a une vertu en tout cas en Chine, c'est qu'il pourrait permettre il permet l'utilisation beaucoup plus facilement de la monnaie par les populations qui sont encore dans les campagnes. En fait, ça permet de bancariser de façon accélérée.
Mais on bancarise sans banque.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça.
Mais avec la monnaie, monnaie d'État.
Exactement. Et on contrôle, ce qui est même effectivement une préoccupation chinoise de toujours bien contrôler.
Alors, ma question, je vous la pose à tous les deux. Jacques, le monde de demain, quelles sont les monnaies qui vont se faire concurrence demain, Jacques Mistral?
Ah bah, il y en a trois déjà, hein,
bon,
qui sont
d'accord.
Les trois acteurs principaux.
Mais alors, les crypto-monnaies,
trois acteurs principaux et deux lois
dans tout ça.
Alors, après, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie Janson, c'est-à-dire que le Bitcoin et ses semblables, ce n'est pas de la monnaie, et ça ne sera pas de la monnaie, pas pour des raisons technocratiques, pas pour des raisons théoriques, mais parce que c'est un actif financier qui a une valeur intrinsèque, lui, contrairement à la monnaie qui est, dont la valeur est faciale. Il a une valeur intrinsèque qui est déterminée de manière purement spéculative. C'est, si on est bien élevé, on dit que c'est une pyramide de Ponzi qui fait la valeur des plateformes en Bitcoin. Si on est plus vulgaire, on dit c'est une arnaque. Hein. Et donc tous ceux qui vendent avant que ça se retourne s'enrichissent sur le dos de ceux qui détiendront les Bitcoins au dernier moment. Donc le Bitcoin n'en fait pas partie. Le Libra, je suis en revanche d'accord tout à fait avec ce qu'a dit Nathalie Janson, c'est un projet d'une toute autre envergure. C'est vraiment la traduction dans la réalité du business du 21e siècle des propositions de Hayek sur la privatisation des monnaies. Donc ça a une signification très lourde. Et surtout, l'immense différence entre les deux, c'est qu'avec Facebook, l'entreprise et la fondation qui abriterait Libra ou Diem ont déjà le public nécessaire pour surmonter toutes les difficultés liées à l'introduction d'une nouvelle monnaie, c'est-à-dire les effets de réseau. Vous avez du jour au lendemain des millions d'utilisateurs et vous êtes capable de faire fonctionner votre affaire. Alors, donc le Libra et candidat potentiellement, et je rejoins ce que Nathalie Janson une troisième fois, c'est-à-dire que en allant plus loin, c'est-à-dire que cela, effectivement, les banques centrales et les gouvernements ne le toléreront pas.
Bon, alors, dans ce monde-là de concurrence entre les monnaies, alors en plus on a la loi de Grisham, hein, la mauvaise monnaie chasse la bonne, donc qu'est-ce qui va se passer? D'où peuvent surgir les crises financières, finalement, dans ce monde à monnaie multiple? Et deux, que peuvent faire les régulateurs, ils sont plutôt conservateurs. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la régulation?
Alors, je ne serai pas aussi... Je ne partage pas le point de vue sur la valeur intrinsèque du Bitcoin qui normalement repose effectivement sur le degré de sécurité en fait des transactions qu'il assure et donc la valeur de son réseau. Bon, après, effectivement, on peut trouver que ça n'ira nulle part, mais c'est ça sa valeur intrinsèque. Par rapport au danger et à la stabilité financière, il y a eu un article assez intéressant cet été publié par The Economist. Et si la valeur du Bitcoin tombait à zéro, que se passerait-il? Alors, on a eu un petit avant-goût parce que la valeur du Bitcoin a été divisée quasiment par deux en quelques jours autour du mois d'avril-mai. Donc, on a vu que ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le reste des marchés. Mais quand même, ils ont fait cet exercice pour savoir. Et en fait, là où le danger est aujourd'hui, c'est surtout parce que beaucoup de traders en Bitcoin sont sur les marchés de dérivés de Bitcoin et en fait sans dette pour être sur ces marchés et que par conséquent ils devront défaire leur position et en défaisant leur position ils peuvent
liquider actifs.
Exactement.
Donc, et là on se retrouve dans la mécanique.
Et le deuxième point faible, c'est à nouveau les stablecoins, puisque donc les monnaies stables, on a mentionné celle de Facebook, mais il y en a qui sont actives aujourd'hui. La plus importante, elle s'appelle le Tether. Il y a aussi l'USDT et eux sont utilisés aussi par les traders comme sas en fait entre Bitcoin et dollars, puisqu'ils proposent une stabilité. Donc les traders
c'est quoi,
l'utilisent beaucoup. Un stablecoin, c'est une monnaie stable, c'était la proposition de Facebook, c'est-à-dire que vous avez une crypto-monnaie mais qui est 100% adossée à, alors dans le cas ici, à une monnaie fiat. Donc le Tether, il est adossé à 100% au dollar. Donc lorsque je fais des transactions en Bitcoin, mais que je veux me protéger contre la variation du valeur du Bitcoin, je vais acheter au contraire du Tether. Je vais passer par le Tether pour me protéger. Et là aussi, le stablecoin, pour garantir son 100% de réserve, a des réserves en fait dans des titres monétaires principalement, et pour, de la même façon, doit donc peut avoir des risques. 5 secondes,
Nathalie, est-ce qu'on va dans un monde plus instable financièrement que le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui était déjà plus instable que le précédent?
Il est plus difficile à réguler, à contrôler. Oui, c'est certain, parce qu'il y a plein d'initiatives. On voit bien que les crypto-monnaies, en fait, même si on veut les réguler, elles sont difficilement régulables. La Chine reste un des principaux pays utilisateurs du Bitcoin, alors qu'il l'interdit et qu'il le chasse. Il a chassé les mineurs. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Jacques Mistral, Guerre et paix entre les monnaies, c'est aux éditions Folio Gallimard. Et puis Nathalie Janson avec ses camarades Jean-Paul Bettebèze, Laurent Bloch, Vincent L'Orphelin, Pascal Ordono, Michel Vol, l'Institut de l'économie, dollar, euro, yen, diem, bitcoin, crypto, tectonique des monnaies. Voilà, voilà pour nos deux invités. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, notre bibliothécaire aujourd'hui Claire Sergent et puis notre globetrotteur Benaouda Abdedaïm. Et on retrouve tout de suite nos critiques attitrés. Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques, et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et qui lui fait de la lecture pour la Société d'économie politique. On commence en cette période d'élection allemande avec le livre de Sylvie Lorrain.
Sophie
Lorrain, pardon. Je vais vraiment changer de lunettes. Vous avez remarqué au fil des émissions que je raconte parfois n'importe quoi. Sophie Lorrain, une histoire de l'Allemagne au fil des textes aux éditions Perrin. Jean-Marc oui. Daniel, c'est votre choix.
Alors Sophie Lorrain est professeur.
J'ai redit Sylvie.
Non, pas du tout.
Ah bon, j'ai eu
pas du tout. Non, mais je conforte qu'elle s'appelle.
Parce que
bien
si Sophie. En plus de mes problèmes de vue, j'ai des problèmes
non,
de mémoire.
Non, rassurez-vous, pour l'instant, tout va bien. Et donc Sophie Lorrain, professeure à Grenoble, est une spécialiste de l'Allemagne, germaniste. Elle s'est fait connaître pour avoir écrit l'histoire de la RDA de référence au PUF. Et là, elle choisit de nous livrer une histoire de l'Allemagne, comme le dit le titre, au travers d'une anthologie de textes écrits par des Allemands ou autour de l'Allemagne par des gens qui s'intéressent à l'Allemagne. Ouais. Alors le sous-titre, c'est de Luther à Helmut Kohl. En réalité, les textes sont essentiellement des textes du 19e et 20e siècle. Luther, il y a quelques textes autour de Luther. Il y a le texte du pape Grégoire VII au moment de l'affaire de Canossa au 11e siècle. D'accord. Où il réagit aux positions de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, le livre est structuré en 5 grands chapitres qui sont supposés nous permettre de mieux comprendre l'Allemagne. Qu'est-ce qu'un Allemand au début ? Donc, c'est le premier chapitre qui est assez important. Ensuite, il y a guerre et paix, parce que l'Allemagne a beaucoup été associé effectivement à des mécanismes de guerre et pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, comme agresseur. L'Allemagne a été beaucoup, le théâtre de champ de bataille a été beaucoup attaqué par la Suède, par la Russie, par la France, et donc l'Allemagne historiquement est plus une victime des aventures militaires que un coupable, comme contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ensuite, il y a 3 autres chapitres sur les institutions. Donc qu'est-ce que c'est que le Reich, qu'est-ce que c'est que la société, qu'est-ce que c'est que la résistance, ce qu'elle appelle, le chapitre qui s'appelle résistance, c'est-à-dire les gens qui se doutaient de l'Allemagne. Alors, comme toujours dans ces cas-là, quand on connaît un peu l'Allemagne, j'aurais pas choisi forcément ces textes. Bon, sur Canossa, elle choisit le point de vue du pape. Moi, j'aurais choisi le point de vue de l'empereur. Donc, à un moment donné, elle parle très peu de Fichte. Sur Napoléon, elle parle pas de Fichte. Elle nous prend des textes de Liszt, mais elle nous parle pas de l'école historique allemande. Bon, elle a fait un choix. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est d'abord qu'elle fait une présentation de ses textes au début de chaque chapitre. Il y a une présentation où elle définit les raisons pour lesquelles elle a choisi ses textes et la leçon qu'elle en tire. Et puis, effectivement, au travers de ces textes, on finit par avoir cette image d'une Allemagne qui est une Allemagne plus torturée qu'on ne pourrait penser, une Allemagne qui s'est longtemps interrogée sur elle-même, où il y a toujours eu très longtemps où il y a eu un affrontement entre le Nord et le Nord-Est, qui est incarné par la Prusse, et le Sud et le Sud-Ouest, incarné par la Bavière et par l'Autriche. Et donc, c'est un pays qui est un pays qu'elle rend assez attachant et un pays complexe qui mérite d'être étudié indépendamment des caricatures qu'on a sur lui. Donc c'est un livre que je trouve utile et intéressant en ces périodes où on parle beaucoup effectivement de l'Allemagne.
Christian Chavagneux.
Je vais être assez rapide parce que on est dans la librairie de l'Écho et il y a 3 lignes d'économie dans ce livre. Ouais. Donc moi qui ne suis pas un spécialiste de l'Allemagne, j'avoue que cette approche très culturelle et politique de l'Allemagne, bon, c'est un peu loin de moi, je pense de beaucoup de ceux qui nous écoutent. On retrouve tous les classiques historiques de l'Allemagne. Alors c'est vrai, Jean-Marc a raison, les textes c'est surtout le 20e siècle en fait, enfin 19e et puis le 20e. Ah, comment le SPD a eu du mal à voter les crédits, mais finalement a voté les crédits de la Première Guerre mondiale. L'humiliation exprimée par le président de la République allemande en 1918 du traité de Versailles. L'entre-deux-guerres, on a des textes des nazis, on a la guerre froide, le mur de Berlin, et on va jusqu'à la réunification. Donc le dernier texte c'est 1990, c'est un peu loin pour nous permettre, en nous plongeant dans les textes, de comprendre un petit peu la situation économique ou politique actuelle. Donc un livre surtout très...
Pourquoi ce choix d'ailleurs de s'arrêter en 1990?
Parce que c'est une histoire, donc on est trop dans le contemporain.
Et ça arrête Helmut Kohl pour pas mettre en jeu les personnages, les acteurs du moment.
Jean-Marc l'a bien dit, ce que fait l'autrice, c'est qu'avant chaque texte, elle nous dit, voilà, ce texte est important, voilà pourquoi, et voilà les idées fortes que vous trouvez dedans. Et moi, je suis toujours troublé par ce genre de livre, parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez l'essentiel. Quand vous avez le texte derrière, vous ne faites que relire en moins bien ce que l'auteur, qui est spécialiste, nous a déjà dévoilé.
Alors, votre choix, Christian, c'est une biographie.
Oui.
Celle de Cornelius Hertz, écrite par Jean-Yves Mollier. C'est aux éditions du Félin.
Ah, c'est un fils d'immigré allemand qui vient en France. Donc on reste dans la même thématique. Du coup, il est né à Besançon. Il va avoir la culture française. Et puis ses parents vont décider d'immigrer aux États-Unis. Et donc il va être biculturel. France. Amérique, États-Unis. Et jusqu'à, on va dire, l'équivalent de son bac, c'est quelqu'un qui a une vie à peu près normale. Et à partir de là, tout va changer.
Alors juste, il est né à quelle époque?
On est en plein Troisième République pour ce qui est de la France, donc d'accord. On est dans la deuxième moitié du...
Il est né en 1845, pour répondre à votre question précise. Ouais,
okay. On est à la deuxième moitié du 19e siècle.
D'accord.
Et à partir du moment où il va avoir son bac, là, tout va se déliter. C'est quelqu'un qui a vécu qu'une cinquantaine d'années, mais alors... Quelle vie pour tout ce qui va suivre. Il veut éviter la guerre de sécession, la conscription de la guerre de sécession. Donc, il va continuer ses études en Europe. Il veut être médecin. Très bien. Sauf que son père perd un petit peu... Son père est un entrepreneur. Ça marche moins bien. Il n'a plus le soutien financier de son père. Donc, il a du mal à continuer ses études. Le voilà à Paris, à travailler dans une pharmacie et à se marier avec une jeune demoiselle dont on s'aperçoit très, très vite que ce qui l'intéresse, à part de coucher avec elle, c'est de récupérer son argent. Elle va mourir de la tuberculose quelques années après. Il va s'en moquer complètement. Et il a voulu échapper à la guerre aux États-Unis, voilà la guerre 1870 en France. Il y participe petitement, mais jusqu'à la fin de sa vie, il dira qu'il aurait été un héros de guerre dans la guerre 1870. Le voilà comme interne des hôpitaux de Paris, dans plusieurs hôpitaux, entre les histoires de fesses et les histoires d'argent, et finit radié. Donc le voilà reparti aux États-Unis, et il a de la chance, parce que quand il arrive aux États-Unis pour retrouver ses parents, à Chicago, la ville vient de brûler. Et donc, il va voir la mairie et dit, mon cabinet médical a brûlé. Et puis, il y avait mon diplôme de médecin, donc j'ai besoin d'une indemnisation. Tu récupères l'indemnisation de la mairie de Chicago, il lance son cabinet médical, ça marche plutôt bien, parce qu'il soigne des gens riches, et puis une ou deux fois, il a quelques succès, mais il est passionné par l'électricité. Le voilà chez Thomas Edison, en train de lui dire, je vais développer vos brevets en Europe. Il revient en Europe. Alors, on va dire, c'est un homme d'affaires ou c'est un entremetteur. L'auteur nous dit, du côté États-Unis, on va dire que c'est un lobbyiste. Du côté français, on va dire, il fait du trafic d'influence pur et simple. C'est pas vraiment un entrepreneur. C'est quelqu'un qui met en relation ses réseaux. Et donc, il a des réseaux immenses du côté des chefs d'entreprise, du côté de la vie politique française. Et il va se retrouver. Et c'est pour ça qu'il m'a passionné. C'est dès que vous êtes occupé du scandale de Panama, vous croisez le nom de Cornelius Hertz.
Ah, mais c'est un escroc, votre Cornelius Hertz, là.
Moi, je pense.
C'est Thomas Edison à un moment donné dans le livre. Alors, lui demande, mais qui est ce Cornelius Hertz? Il répond, c'est un escroc.
Donc moi aussi, je pense que c'est un escroc. Donc, l'affaire du scandale de Panama, on va s'apercevoir que cette société qui est en train de creuser le canal de Panama, qui n'était pas dans une situation financière très florissante, va avoir le droit de lever l'épargne publique en France, autorisée par l'Assemblée nationale. On va s'apercevoir qu'une bonne partie des députés ont été achetés par deux personnes, Jacques de Reynac, le banquier, et Cornelius Hertz. Évidemment, pour échapper à la justice, le voilà qui fuit à Londres. La justice française va essayer de le récupérer, les Anglais ne vont jamais nous le donner. Et il va mourir dans des conditions assez atroces parce qu'il est victime d'un gros diabète. Le polémiste Henri Rochefort a cette expression odieuse, il l'a appelé le grand sucrier. Parce qu'il va mourir d'un diabète terrible en Grande-Bretagne. Et vous avez donc dans ce livre tous les détails de la vie de Cornelius Hertz.
Eh ben, des dents.
Alors, c'est le mot détail qui est important dans ce que vient de dire, indépendamment de la description que vient de faire Christian de la vie de ce personnage, qui est effectivement ce que raconte le livre. Mais alors, on se noie dans énormément de détails. Le livre hésite. À un moment donné, à la fin, donc, l'auteur dit, cette vie est un roman. Et effectivement, c'est une vie qui est un roman, mais il aurait dû le traiter comme un roman. Et il nous assomme de détails. Il nous dit combien gagnaient les professeurs qu'il avait quand il était en 6e ou en 5e.
Sur chaque personnage. Jean-Marc admirait la performance d'avoir autant de détails sur un
qui a autant menti, autant
dissimulé, autant falsifié.
Oui, d'ailleurs, il nous dit voilà, ma source, c'est ça, et tout ça. Et il nous traite comme si on était des membres d'un jury de thèse, alors qu'on est des lecteurs qui s'attendent à vivre un roman. Parce que ce personnage est un escroc, effectivement, comme Asselineau le dit, c'est un escroc. Ce personnage est un mythomane. Ouais. Ce personnage est décrit aussi, alors c'est un aspect un peu étrange du livre, comme très assoiffé sur le plan sexuel, donc il a besoin en permanence d'avoir des femmes à portée de main, si je puis me permettre cette expression. Et donc, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique.
Non, pas vraiment. Ouais. Non,
qui n'est pas, pas vraiment antipathique. Il y a des moments où on se dit qu'il est un peu victime du sort, quand même, quand il... Donc, Christian l'a dit, il s'installe en Autriche.
Mais Christian, il est fasciné par les escrocs.
Oui, oui.
Il s'installe en Autriche. Le dernier livre, ce n'est que ça. Et je pense qu'il a... En fait, il a choisi ce livre parce qu'il a le regret de ne pas l'avoir mis...
C'était pour voir si j'aurais bien fait de le mettre ou pas. Mais ce n'est pas tout à fait dans la ligne de mes escrocs. Donc,
quand il se réfugie en Autriche pour fuir donc, aux États-Unis la guerre de sécession, il arrive à être en Autriche. C'est le moment où l'Autriche et la Prusse se font la guerre. Alors, il s'en va, il se réfugie en France, et à ce moment-là, la France et la Prusse, de nouveau, se font la guerre. Il y a une espèce... Et donc, je crois que c'est un personnage qui est fondamentalement...
En fait, c'est un pleutre rattrapé par l'histoire. En
c'est un personnage assez pathétique, qui est une espèce de mythomane, doublé d'un escroc. Je suis pas sûr que il mérite un livre aussi épais et autant d'attention.
Bah, on n'avait rien. Avant,
donc il aurait
de référence.
Je pense que l'auteur aurait pu nous faire un livre beaucoup plus court et beaucoup plus romanesque à partir d'un personnage qui effectivement est un escroc assez pathétique.
Rendons
et
hommage assez à la somme de travail quand même.
Oui, bien absolument. La langue est assez agréable malgré les détails. La langue est pas universitaire. Voilà. La langue est assez agréable, donc ça se lit quand même assez agréablement, mais on se perd un peu dans les détails.
Bon, merci beaucoup. Messieurs, allez, on retrouve Claire Sergent, notre bibliothécaire du jour, qui va nous replonger dans la lecture d'un ouvrage qui nous a beaucoup occupé. Jean-Marc, certainement, Christian aussi, et L'économie politique de Raymond Barre.
Ah bah évidemment.
Voilà.
Ça nous occupe encore. C'est un livre éternel.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Claire, journaliste à la rédaction de BFM Business. Alors, elle a choisi, Claire, cette semaine, pour nous faire voyager dans le temps, de nous ramener Ben Aouda, moi, Jean-Marc Daniel, à nos années d'étudiants. Voilà, puisque Claire, vous avez choisi le manuel culte de nos années d'économie à la fac, le manuel de Raymond Barre. Économie politique.
Effectivement, moi je n'ai pas eu la chance d'apprendre l'économie avec le manuel de Raymond Barre.
C'est gentil de nous rappeler que vous êtes beaucoup plus jeune que nous.
Mais pourtant, il vaut le détour, parce que c'est quand même toute une génération qui a appris l'économie. Et Emmanuel, vous avez encore aujourd'hui plein de choses à m'apprendre sur l'économie. Oui, effectivement,
mais c'est plus la peine, puisque vous avez lu l'économie politique de Raymond Barre aux éditions Thémis. Rappelez-vous, cette couverture blanche avec petite balance rouge et noire.
Oui, puis édition qui a été revue, recorrigée entre les cours qu'il a commencé à donner à Sciences Po dans les années 60 jusqu'après son passage par le gouvernement.
Alors, c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'au départ, Raymond Barre, il ne se destine pas à l'économie.
Et non, au départ, il prépare la grecque de droit, mais il est collé à l'oral, et donc finalement, il passe l'oral d'économie, qu'il réussit. Et donc, en fait, dans ce manuel d'économie politique, comme il vient du droit, il a une vision assez littéraire. Il a une façon de raconter l'économie qui est très peu formalisée. On y retrouve que les équations, les plus simples qui caractérisent l'économie, mais il y a finalement très peu de mathématiques comparé, par exemple, au manuel avec lesquels j'ai pu étudier l'économie. Mais ça le rend plus facile d'accès, assez facile à lire, si je puis dire.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce manuel d'économie politique?
Alors bien sûr, il y a toute la partie macroéconomique qui est la plus intéressante. Et puis alors, il y a des petites pépites que j'ai relevées, surtout en cette période électorale, quand par exemple il explique le concept du cycle électoral des dépenses publiques, avec le pouvoir qui cherche à fidéliser ses électeurs. et à en attirer de nouveaux grâce à la distribution d'avantages spécifiques. Il en résulte un gonflement des dépenses avant chaque consultation électorale. Et pour lui, c'est inévitable.
Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au fil des éditions, on suit aussi son parcours personnel. C'est-à-dire qu'au début, il est prof, il n'est pas du tout politique. Et puis après, donc, il y a tout un tas de réflexions qui sont ajoutées dans les éditions successives, qui sont nourries par son parcours politique.
Effectivement, et là, la dernière version qu'on a, on a vraiment les chiffres même de l'économie qui vont jusque dans les années 90. Alors forcément, il y a une partie qui est particulièrement intéressante sur la dépense publique. Il a d'ailleurs intitulé une section « Les infortunes de la politique budgétaire ». Il fait toujours un focus sur la France. Il reprend les propos de George Bush. « Nous avons plus de volonté que d'argent dans notre portefeuille. »
George Bush père.
George Bush père, bien sûr, oui. Et alors, il a ces mots pour qualifier la tenue des comptes publics en France quand il était Premier ministre et à la fois ministre des Finances après le choc pétrolier et les dépenses qui se sont dégradées en 75. Il écrit « Le gouvernement impose le respect des équilibres macroéconomiques et parvient à maintenir le déficit en dessous du seuil de 1,5%. » Et ce sera la seule oasis de maîtrise des dépenses publiques. Il donne tous les chiffres. Ça s'arrête en 1996, où là, on dépasse déjà les 4% du PIB. Il dresse ce constat. L'économie française souffre du poids excessif du secteur public, où on parle là de 59% de la production nationale.
Alors, il donne des recommandations quand même. Il dit qu'est-ce qu'il faut éviter quand on prend des décisions de politique économique.
Oui, et on se dit que ce manuel, il est toujours d'actualité. Il dit qu'il faut éviter une hausse indifférenciée des salaires, dont on entend pourtant parler en ce moment dans ce contexte électoral. Une réduction du temps de travail, c'était déjà lui à l'époque le constat du passage des 40 aux 39 heures. Ouais. Et puis ce qu'il faut faire, baisser les dépenses, baisser les impôts sur le revenu, réduire les déficits et puis respecter les critères européens des 3% de déficit.
Voilà les leçons du meilleur économiste de France, comme le décrivait Valérie Giscard d'Estaing. Merci beaucoup Claire Sergent pour ce voyage dans le passé. On retrouve tout de suite notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda Abdelhaim, bonjour, cher Benaouda. Allez, on commence notre tour du monde, évidemment, par notre voisin allemand. Au-delà du merkelisme, qu'attendent les Européens de l'Allemagne après Madame Angela Merkel?
Oui, les élections législatives ont lieu ce dimanche en Allemagne. La doctrine du merkelisme va bientôt appartenir à l'histoire contemporaine. Perdurer le cas échéant, si l'on suit ce rapport que viennent de publier deux chercheurs du centre européen ECFR, l'un à Varsovie et l'autre à Berlin. Le document s'appuie sur une douzaine d'enquêtes d'opinion, de sondages, plutôt à travers les pays membres de l'Union européenne, pour établir à quel point la première puissance économique européenne est somme toute appréciée en tant que chef de file politico-économique du bloc des 27. L'interprétation favorable de ces enquêtes vaut tout autant en matière de politique économique et financière que sur le plan de la démocratie et des droits humains au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, je ne vais pas vous faire toute la liste. Auprès des citoyens interrogés, la chancelière sortante est parvenue à positionner l'Allemagne comme, je cite, une force fédératrice. C'est très frappant. À partir de cette recherche, Angela Merkel recueille toujours un soutien substantiel, pluriel, à tel point que nombre des Européens interrogés considèrent que sans elle, il y aurait eu plus de conflits dans le monde. Et en dépit de toutes les dénonciations de la rigidité budgétaire allemande, avec la règle constitutionnelle de l'équilibre des comptes publics, incarnée par les gouvernements successifs d'Angela Merkel, là aussi, le soutien se révèle très important en Europe. C'est en Hongrie qu'il est le plus haut, et en Italie le plus bas, mais même en Italie, le plus l'emporte sur le moins. Mais autant le leadership économique à la Merkel, je cite encore, semble emporter l'adhésion comme nul autre, autant la crédibilité géopolitique de l'Allemagne apparaît en retrait lorsqu'il s'agit de traiter avec Washington, avec Moscou, avec Pékin. Ce n'est pas à Berlin que l'on pense. Les auteurs évoquent même une marginalisation en la matière. Il y a là aussi une conviction majoritaire que l'âge d'or merkelien est dépassé, à moins que ses successeurs osent sortir du statu quo.
que nous apprend la géographie des nouvelles dynamiques d'emploi en Slovaquie, Benaouda.
Alors, c'est une étude de cas cofinancée par le Fonds européen de développement régional, très instructive sur la façon dont cette économie slovaque, qui a connu un essor tout à fait remarquable au début des années 2000, doit évoluer pour ne pas devenir prisonnière d'un piège, celui du revenu intermédiaire, classique pour les marchés émergents qui n'arrivent pas à devenir des économies avancées. Alors, comment passer d'une production à faible valeur ajoutée vers un positionnement plus élevé dans la chaîne de valeur? On a appris un certain nombre de choses concernant la Slovaquie. Ce sont les PME qui ont du mal, vraiment beaucoup de mal à monter en gamme, alors qu'elles forment les trois quarts de l'emploi dans le pays. Manuela Samek-Lodovici et ses co-auteurs montrent à quel point les secteurs intensifs en technologie pâtissent d'un défaut de main-d'œuvre hautement qualifiée. Le rattrapage universitaire dans les disciplines scientifiques avance, notamment parce que beaucoup de jeunes Slovaques partent à l'étranger se former, mais les manques restent vraiment patents si l'on compare à la République tchèque, à la Pologne ou même à la Hongrie. Puis il y a une distribution territoriale, parce que là c'est le cœur du sujet, très inégale de l'emploi, requérant des compétences universitaires. La concentration est autour de la capitale Bratislava à l'ouest reste extrêmement élevée, ce qui fait que le taux de chômage entre l'ouest et l'est est d'un rapport de 1 à 3. Et la crise pandémique est vraiment venue accentuer ce déséquilibre territorial que l'on retrouve aussi dans les parts de budget des entreprises consacrées à la R&D, à la recherche-développement. Alors l'effort de formation initiale et continue doit être décuplé, nous disent les auteurs. Et deux autres recommandations essentielles sont formulées. Promouvoir le retour des Slovaques partis se former à l'étranger. Et puis attirer des travailleurs non européens hautement qualifiés. C'est indispensable pour l'économie slovaque.
Enfin, il y a un prix à payer pour être un milliardaire en Chine, Benaouda.
Oui, l'épreuve à partir de la liste Hurun. Le basculement du sort des hautes figures chinoises, de la technologie, de la finance, de l'immobilier, suscite ces derniers temps une forme d'intérêt mondial. Le plus connu, bien entendu, de ces profils étant le fondateur d'Alibaba, Jack Ma.
Ah, il y a des pays où être milliardaire, ça vous protège en Chine.
Oui, et c'est démontré là. C'est vraiment démontré. Il y a un classement annuel des fortunes, la liste Hurun, qui est devenue à ce titre un point de référence pour comprendre ce prix à payer. Alors, référons-nous alors à cette recherche académique sur le début des années 2010, effectuée par trois professeurs à l'Université d'économie et de finance de Shanghai. Elle nous donne un éclairage qui permet de comprendre beaucoup, beaucoup d'éléments de l'actualité. Xian Jiehe et ses collègues analysent les réactions de l'État, mais aussi des entrepreneurs et des investisseurs à la publication de cette liste afin de déterminer ses impacts sur l'égalitarisme dans la culture confucéenne. Et ça ne relève pas que de la philosophie, vous allez voir pourquoi. Entrer dans ce palmarès des milliardaires expose en Chine à une probabilité accrue d'ennuis judiciaires. C'est démontré, 17% des membres de ce cercle se retrouvent tôt ou tard devant un tribunal, voire en prison, alors que la proportion hors liste est de 7%. Alors, les promoteurs de cette liste Hurun contestent ces proportions. Il y aurait une tendance aussi à dissimuler les profits réalisés pour ne pas attirer l'attention publique. La gestion devient donc conservatrice. Dès lors, et cela en découle en partie, la manière dont les investisseurs réagissent à une intégration à la liste d'un patron d'une entreprise cotée en bourse à cette liste Hurun, elle se révèle globalement négative, les investisseurs aussi.
Ah bah oui.
Oui, parce que les auteurs constatent une contraction importante, voire très importante, de la valeur de marché de la société dans les trois années qui suivent. Le modèle utilisé porte sur 139 entreprises, donc c'est large. Et ils ont calculé un impact plus important à la bourse de Shanghai ou de Shenzhen, plus important qu'à Hong Kong, qui est impact encore plus important qu'à New York. Et là encore une fois, c'est une culture de l'investisseur qui se diffuse à cette interprétation de la liste Hurun.
Passionnant, Benaouda, passionnant. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Si vous intéressez à l'histoire, vous savez que vous avez le site de la BNF en France qui a deux sources importantes, Gallica en accès libre et RetroNews. RetroNews, c'est l'accès à
La
Bibliothèque nationale de France. RetroNews, c'est l'accès à trois siècles de publications journalistiques. Alors là, l'accès est payant. Mais là, RetroNews a décidé de faire l'inverse de ce qu'on fait tous, c'est-à-dire le papier passe généralement sur le web. Le web passe sur le papier. Il lance une revue. Moi, j'ai voulu saluer cet effort méritoire de lancer une revue. non pas avec des extraits de journaux anciens, mais avec des spécialistes, des journalistes, des historiens qui vont commenter des grands thèmes. L'un des thèmes qui est traité dans le numéro 1 qui vient de sortir, c'est les contaminations. Évidemment, on est très surpris de voir ces photos de gens avec des masques après la grippe espagnole, d'apprendre que Jack London a fait une petite nouvelle pour expliquer que le monde pouvait disparaître après un virus. Un excellent papier de François Jarry sur comment le mot pollution est rentré dans le vocabulaire médiatique. Vous avez un petit dossier sur les crimes et délits aussi absolument délicieux. Vous apprenez qui est la véritable casque d'or qui a donné le film fabuleux avec Simone Signoret.
Simone Signoret, Serge Reggiani. Jean-Marc Daniel, votre dernier choix.
Alors moi, je suis plus dans l'actualité, c'est la biographie que vient de publier Olivier Piton chez Plon de Kamala Harris. Ça s'appelle ouais. Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Donc, c'est assez court, ça va à l'essentiel, c'est écrit en plus avec des phrases assez...
Kamala Harris, qui est Jean-Marc Daniel.
Alors, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui avait commencé par être une des candidates et puis qui a renoncé assez rapidement lors de la primaire et qui a été choisie par Joe Biden pour être sa vice-présidente. Et c'est un personnage à qui on prédit maintenant un avenir assez radieux, entre guillemets, puisque même si Joe Biden, ce que nous espérons tous pour lui, termine son mandat, il est probable qu'il en fera qu'un, et donc assez naturellement, elle pourrait être la candidate du Parti démocrate aux prochaines élections. Donc c'est l'occasion de découvrir un personnage dont tout le monde a entendu parler, mais dont on ne sait pas en fait grand-chose.
Et qui est pour le moment une vice-présidente assez conventionnelle.
Assez conventionnelle, même si elle existe. Mmh. Elle est plus présente que certains vice-présidents dans le passé. Et puis, bon, j'avais oublié qu'elle avait vécu assez longtemps au Québec. Ouais. Et donc, elle a une partie de sa culture qui est aussi un peu une culture française. Donc,
Parfait. Et écoutez, moi, je termine avec un livre austère, mais dont vous devez absolument connaître l'existence parce que ça fait partie de ces usuels, de ces guides, de ces livres pratiques sur un sujet devenu majeur, droit de l'arbitrage, théorie et pratique par Jalal El-Haad et Daniel Minghi. C'est aux éditions Lexis Nexis et donc voilà toutes les questions que vous vous posez sur l'arbitrage. Par exemple, tous les sujets autour de les considérations économiques, sociales, statistiques, historiques, philosophiques, sous-jacentes à la matière, un guide pratique, donc incontournable. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'Écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.